Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Star Trek Historia, de Trek Historia, pardon, l'émission, le podcast sur Star Trek. J'espère que vous avez passé un joyeux Noël et que vous apprêtez à passer une très bonne fin d'année. Si tout se passe bien, nous serons diffusés le 29 décembre 2019 pour finir et clôturer cette belle année de 2019 et cette belle décennie. année 2019.
Tu vas y arriver.
Ouais, merci, je suis très fatigué, j'en ai marre de cette décennie, vivement qu'on passe à 2020 et qu'on voit les voitures volantes arriver. Bonjour Cyril, comment vas-tu ?
Eh bien écoute, bien, voilà, pareil, je viens de tilter à l'instant qu'effectivement on va changer de décennie.
Ouais. J'avais t'as pas vu tous les gens sur Twitter qui s'appellent, qui sont là, quels sont les meilleurs films de la décennie ? Joker !
Ouais, mais vu qu'on a les récaps, tu sais, là, les récaps de fin d'année, puis les récaps de mi-année, les récaps du printemps, tu fais plus gaffe quoi.
Ah là là là. J'ai une seule hâte, c'est quand même de voir popper les vidéos gags, les meilleures vidéos de chute de la décennie. Ah. Ça c'est mon petit guilty pleasure. Cyril, on peut te retrouver sur Twitter, c'est @cm Callejon, C-A-2-L-E-J-O-N, et moi je suis Rémi, vous pouvez me retrouver sur Twitter, Rémi, R-E-M-I, 2, le chiffre 2, la lettre D, Rémi 2D. Et on peut te retrouver également sur la chaîne YouTube Star Trek Historia. Normalement, vous nous écoutez probablement sur cette chaîne-là ou alors sur mon podcast, pardon, pour une poignée de review P1, P2R. L'un ou l'autre, c'est comme vous voulez, on vous attend et on se retrouve dessus. Aujourd'hui, de quoi vas-tu veux-tu qu'on parle Ça alors... va pas du tout, hein.
Non, mais allez, va voir ton petit Ricard, là, c'est l'heure.
Pire présentateur du siècle.
Non, on va d'abord avoir les questions comme d'habitude, et puis après, on va parler un peu de la philosophie des vaisseaux dans Star Trek.
Attends, les vaisseaux ont des philosophies dans Star Trek ?
Il y a une philosophie, ouais. Alors, peut-être pas, non, mais graphiquement, il y a des choses. Ça dégage des idées, et vous allez voir que très vite, on comprend qui fait quoi.
Et comme tu viens de le rappeler, les petites questions des auditeurs et auditrices. Donc aujourd'hui, on en a reçu beaucoup moins que la dernière fois, mais quand même beaucoup. Merci XP à nouveau pour ta contribution. Allez, on commence par la seule question troll de Alien Tux qui demande sur le Discord de Star Trek pour les nuls. Les Klingons sont-ils capables de garder la même tête ? Vive l'Empire Terrien ! Comment ça, c'est pas une question ?
Les Klingons sont-ils capables de garder la même tête ?
Oui.
Effectivement, avec Discovery, il y a. Alors, c'est marrant parce que sur Discovery, on a tous été choqués de voir que les Klingons avaient une gueule différente de ce qu'on avait connu. Or, c'est vrai que depuis le début des séries Star Trek, et même dans les films, donc entre la TOS, ils n'ont pas d'arête frontale dans TOS. Ensuite, dans les films, notamment avec Christopher Lloyd, là, qui incarne un premier Klingon à crête, là, à face de tortue. Voilà, et puis après, on a effectivement TNG qui a repris l'idée. Et dans DS9, il y a cet épisode là pour les 20 ans, je ne sais plus quel âge de Star Trek, où ils reprennent, où ils revont dans une émission de TOS. Et justement, ils demandent à Worf pourquoi les Klingons n'ont pas de crête. Worf répond que c'est un truc dont on parle pas dans l'Empire parce que c'est honteux. Et effectivement, dans Enterprise, on nous explique que suite à des expérimentations génétiques sur les améliorés, les gens comme Khan, les Klingons se sont auto-balancés une maladie qui fait que ils ont besoin de gènes humains pour survivre. C'est pour ça qu'ils ont certains n'ont pas de crête. Or, j'ai constaté parce que je viens de finir Enterprise. À nouveau, et j'ai constaté qu'il y a deux trois idées en fait qui ont peut-être servi aux scénaristes de Discovery dans Enterprise. Effectivement, dans Enterprise, on te laisse comprendre que l'Empire c'est une idée politique plus que raciale. Et effectivement, donc Kallès, tout ça, c'est un Klingon et les Klingons donc primordiaux ont cette crête, mais est Klingon celui qui naît dans l'Empire Klingon. Idée qui est reprise aussi dans Star Trek Online, étant donné que les Gorn dans Star Trek Online ont été annexés par l'Empire Klingon
Wow.
Et ont pris pour eux les coutumes klingones. C'est-à-dire qu'ils parlent de maison, qu'ils ont le sens de l'honneur, et ils font partie intégrante de l'Empire Klingon, et il n'y a pas de discrimination raciale parce que c'est des gornes.
C'est beau, tout ça.
Et voilà. Mais c'est une idée qui en fait était là depuis un moment et on n'a jamais fait gaffe. C'est une idée de est Klingon celui qui est né dans l'Empire Klingon, un peu comme en France, la République au temps des colonies était français, celui qui naissait dans l'Empire, quoi.
Ça fait très oui c'est vrai, j'avais pas pensé du tout, j'avais pour moi l'image de l'Empire romain où était romain celui qui
était romain celui qui naissait à Rome. Après c'était un sujet de l'Empire, c'est
oui,
Napoléon,
c'est ça, voilà. Ouais, pardon.
C'est-à-dire, justement pour agrandir ses armées, il a décrété ce droit du sol, qui est quelque chose qui était relativement nouveau pour l'époque, était français, celui qui naissait dans l'Empire français. Et ça permettait d'avoir très vite de grosses armées. Parce que dès que tu as annexé un pays, tu pouvais devenir français, quoi.
Ok, et juste alors je me permets de m'interjecter, dans le film de la saga originale, on voit aussi, le tout premier film, on voit des Klingons à Crète.
Oui.
Maquillage n'est pas encore parfait, donc on les a bien plongés dans le noir, parce que c'était un travail en cours, je pense, et voilà. Alors, Alien Tux, il pose une réelle question juste après, quand même, question de production, c'est quoi la canonicité des jeux, des comics et autres. À chaque fois, il revient à cette question, elle est dure.
La canonicité...
Personne n'est jamais d'accord.
Je vais répéter ce que j'ai dit, parce qu'on me l'a reposé sur ma chaîne aussi. En gros, pour moi, est canon tout ce qui n'est pas incohérent. Tant que c'est cohérent, ça reste canon pour moi. Donc, le jeu vidéo Star Trek Online est canon, parce qu'il est adoubé par Paramount et CBS. Du coup, tu retrouves... chaque fois qu'il y a un événement, un film qui sort sur Star Trek, tu retrouves les conséquences dans le jeu. Et des fois, ils poussent même le vice à aller chercher les acteurs. Par exemple, on a eu les saisons sur Discovery. Donc, ils ont poussé le vice à aller chercher les acteurs de Discovery pour venir refaire les voix. Et on a des histoires qui sont cool. Là, la dernière saison en cours sur Star Trek Online. Donc nous, on est, je crois, 80 ans après First Contact dans le jeu, là, dans Star Trek Online. On doit aller chercher dans l'univers mycélien, dans le réseau mycélien, une copie de Stamets. Une copie génétique de Stamets pour résoudre un problème, parce qu'effectivement, des Klingons de l'époque du Discovery sont arrivés donc au siècle de Star Trek Online et foutent le bordel avec une technologie dont la Fédération ne sait rien, étant donné que les archives de l'époque ne sont pas bonnes. Donc on va dans le réseau mycélien, on trouve une copie qu'on arrive à matérialiser avec un docteur holographique, avec la matrice du docteur holographique, et on a un Stamets holographique qui nous donne les missions et les conseils pour cette nouvelle saison de Star Trek Online. Et c'est relativement triste parce qu'il se rend compte que son amour de toujours est mort depuis longtemps.
Ah là là, mais ils sont les scénaristes de...
Ah mais chaque saison est super bien, quoi. Je veux dire, on avait la première saison de Discovery, donc on suivait le capitaine Lorca, sans spoiler, le vrai capitaine Lorca. Qui t'expliquait comment il perdait ses yeux et comment il se faisait choper par l'autre capitaine Lorca.
D'accord.
Okay. Donc voilà, à chaque fois, t'as des trucs comme ça super cool, quoi.
C'est ouf. Question technique. XP70.
Je finis de répondre. Tous les autres jeux vidéo, par exemple, alors on avait parlé des comics dans une émission, là, mais tous les autres jeux vidéo en général, à part des jeux, comme Star Trek Galaxy Quest, une sorte de jeu de plateau, quoi. Tous les autres, ils sont plus ou moins canons parce que c'est des sortes d'épisodes qui peuvent se mettre dans n'importe quelle saison. Et je pensais au jeu, par exemple, Voyager, Tactical Assault, des trucs comme ça, quoi. C'est des jeux qui n'apportent pas d'incohérence, donc ils sont canons.
Voilà, donc pour toi, en fait, la définition du canon, c'est du moment que tu n'apportes pas d'incohérence, tu es canon.
Voilà, exactement.
Ok. Donc Discovery, c'est pas canon. Pardon, on change de question. XP78 nous demande que symbolise le logo de Starfleet.
Alors, bonne question, j'ai un peu cherché, j'ai pas trop trouvé. Tout ce que je sais, c'est que le logo de Starfleet, il est repris du logo de l'Enterprise, de TOS. Si vous faites gaffe, dans TOS, Ils ont repris l'idée dans Enterprise aussi, mais dans TOS, chaque navire a son logo. Voilà, sur les épaules, chaque navire a son logo. C'est ce qui se passe aussi dans Enterprise. Le NXT, le NX Enterprise a son propre logo et le NX Columbia a le sien. Donc voilà. Effectivement, après, je pense que c'est purement pour des raisons mercantiles. C'était plus simple de garder le logo de l'Enterprise et de dire que c'est le logo de Starfleet, quoi.
D'accord.
Voilà.
Ok, ah, c'est intéressant.
Ça a l'air d'être un alpha. Pour moi, c'est un alpha, le logo de Starfleet. Et du coup, vu que bah, la Terre vient du quadrant alpha, ça me...
D'accord.
Ainsi que pas mal des espèces qui sont fondatrices de la Fédération des Planètes Unies, ça m'a pas l'air...
Oui, oui, c'est pas déconnant.
Voilà.
Ok, très intéressant. Bah, tiens, tu parlais du NX. Archer de la STFE nous demande sur YouTube... Le NX, c'est pas pour nouvelle expérience, j'en doute.
Ou next.
Next experiment.
Ouais, je sais qu'en anglais, NXT, ça veut dire next. Ça veut dire next, nouveau. Ça veut aussi dire NXT, bon, ça veut dire aussi, tu sais...
Meilleure compagnie de catch. Pardon.
Voilà, par exemple, pour parler de ça, la compagnie NXT de la WWE, c'est les prototypes, c'est les pilotes.
D'accord.
C'était ça à la base, c'était l'ancienne Florida Federation School, c'était là où ils créaient les stars de demain, quoi. Donc je pense qu'il y a, bon ça n'a rien à voir avec le catch, hein, le NX, mais je pense que ça va être un logo ou une sorte d'abréviation qui est utilisée pour la recherche, et ça veut dire nouvelle, next.
Ok, ok, ok. Bon, en réalité, la NXT, c'est pas forcément la meilleure compagnie de catch. Désolé.
Toujours mieux que le botch AEW. Allez,
oh,
on passe.
Arrête. Question de Noob par Winnie Taniguchi que vous pouvez entendre sur le podcast de Danny, excellent et complètement foufou dans sa manière de faire les choses. J'adore ce type. Il nous demande sur Twitter, désolé pour la question ignare. Alors ça, arrêtez de vous excuser, il n'y a pas de question bête, il n'y a pas de question de non-connaisseur, il n'y a que des questions. Et si quelqu'un vous dit que votre question est bête, c'est que cette personne est un gros ou une grosse connard ou connasse, c'est tout, il n'y a pas de question bête. Mais y aura-t-il un jour un crossover entre les timelines principales, sans partir dans le multivers échevelé à la Marvel, pour réconcilier les fans de la première heure et ceux de l'époque moderne ?
Eh ben écoute, ça a été annoncé cette semaine, il y a deux films qui arrivent autour de Star Trek, ça y est, les budgets ont été lancés, il y a la saison 2 de Picard aussi qui est d'ores et déjà commandée. Et ça a été annoncé cette semaine, il y a une volonté, c'est rigolo qu'il parle de Marvel, mais il y a une volonté de faire un univers cinématographique relié. Donc, de là à savoir s'il y aura un crossover, pourquoi pas, peut-être pas avec Shatner ou des choses comme ça, quoi. Mais c'est le but, le but clairement qui a été dit, je ne sais pas si c'était une conférence de presse ou une annonce, mais le but c'était de centraliser maintenant autour des séries les prochains films. C'est-à-dire que, bah, comme il y avait eu pour TNG ou pour TOS, tout ce qui s'est passé dans les séries aura un impact dans les films. On a pu voir ça notamment aussi, mais ça s'est toujours plus ou moins fait. Hein.
Bah, ouais.
Quand on regarde par exemple le dernier film Star Trek Beyond, il y a un rapport avec Enterprise qui est encore plus marqué que sur les deux autres. C'est une des missions justement, qui a mal tourné de l'époque dans l'Enterprise, qui cause l'antagoniste de Beyond, quoi. Et donc oui, c'est une volonté maintenant de faire un univers étendu et multi-connecté.
Alors, moi, je, comme c'était fait jusqu'à présent, je trouvais ça cool. Parce que voilà, on est dans le même univers quand même, il faut garder de la cohérence. Mais que tout se rebondisse et se répande en permanence, j'espère que ça ne sera pas poussé à ce point. Quoi, parce que je ne vois pas l'intérêt de faire... Ça pousse l'effet micro-univers, alors que justement avec Star Trek, tu as une galaxie entière à explorer, tu as des milliards de choses et Franchement, que Picard ait fait un prout et que ça ait de l'importance sur les aventures du prochain héros, du prochain film, ça me saoule un peu. J'espère que ce ne sera pas poussé le vice à ce point, à la Marvel, justement, où la moindre seconde de chaque truc aura de l'importance dans
la production suivante. Est-ce que ce n'est pas une réponse aux web-séries, aux web-films, genre Prélude to Xanar, Star Trek Journeys? Est-ce que ce n'est pas une tentative d'essayer de normaliser tout ce qui se fait autour de Star Trek, parce que Star Trek, c'est quand même une des seules licences, alors tu vois, il y a du bien, il y a du moins bien, hein, mais c'est une des seules licences où le fandom a vraiment pris le pouvoir, quoi. Par rapport à Star Wars, ou à, tu vois, Star Wars, Disney interdit tout délire de web-série ou de choses comme ça, quoi. Star Trek, ils ont mis vachement de temps à agir là-dessus, et ça existe maintenant.
Ouais. Bah après, il y a des productions qui ont des difficultés à émerger.
Tu vois, Prélude to Xanar, ça claque du cul, quoi. C'est pas incohérent, c'est bien fait.
Ouais.
Et ça pourrait rentrer dans cet univers étendu. Je pense que c'est aussi une réponse à ça, parce que ça a toujours été un problème, hein, pour la Paramount, ces créations originales, sans qu'ils aient le contrôle dessus.
Et eux, ils n'arrivent pas à gagner de l'argent. Ok. Allez, on va faire les questions de XP un petit peu. Question un peu compliquée celle-là, mais très intéressante. Dans l'univers miroir, les Klingons sont-ils gentils? Les Ferengi détestent-ils l'argent? D'ailleurs, l'argent existe-t-il dans l'univers miroir?
Eh ben oui, les Klingons, alors, sont pas gentils. Les Klingons, ils font partie de la faction ennemie, donc alliée aux Cardassiens et aux Romuliens, il me semble, qui essayent de contrer l'Empire Terran. J'invite la personne qui a posé la question à regarder tous les épisodes concernant l'univers miroir dans Deep Space Nine. Voilà, ouais, étant donné que Régent Worf tente à plusieurs reprises de capturer DS9. Les Ferengi détestent l'argent, ça je pourrais pas te dire parce que c'est jamais clairement dit. Par contre, ils sont plus altruistes. Et oui, il existe de l'argent dans l'univers miroir, étant mais donné après... que... Tout, dis-moi.
Oui, non, j'allais dire, oui, l'argent existe toujours dans l'univers miroir, tout comme il existe dans l'univers Prime, mais de toute façon, c'est pareil. Enfin, la logique est la même, dans le sens où l'univers est tellement immense que il n'y a pas que l'argent qui peut régir tout. Enfin, je suppose qu'on garde quand même les effets de troc et de rendage de services, je sais pas si ça se dit comme ça. Enfin, bref.
Voilà. Économie de marché. Oui. C'est le mot que je cherche.
Merci. XP toujours, comment est-il possible que les personnages de TOS, de la série originale, aient pu faire des cameos dans TNG, dans la série Next Generation, alors qu'il y a beaucoup d'années d'écart entre les deux séries dans l'univers Star Trek? L'expérience alors... de vie, c'est pas l'expérience, c'est la durée de vie, a-t-elle beaucoup augmenté?
Bah, en fait, on va recadrer les choses. Effectivement, Shatner... Kirk fait un caméo dans le film, donc The Next Generation, c'est quoi? C'était Génération, le titre du film. Il fait un caméo, mais lui, il a pas vieilli. Il était dans un vide temporel, dans le Nexus, et pour lui, il s'est passé même pas une journée entre le moment où il est rentré dedans et où le moment où il en sort 70 ans plus tard, là, 60 ans ou 50 ans, je sais plus combien de temps. Voilà. Bon.
Il a pas pris
ensuite.
Une ride.
Voilà, il n'y a pas pris une ride, normal, il était dans un truc où il n'y avait pas de temps. Ensuite, Spock. Spock, c'est un Vulcain. Donc, les Vulcains ont une espérance de vie beaucoup plus grande que celle des humains. Ils peuvent dépasser facilement les 200 ans, il me semble.
Oui. D'ailleurs, Tuvok est très intéressant pour ça, parce qu'il a vécu sous les ordres du capitaine Sulu. Et il est toujours là, oui dire, après
le jeune, très fringant.
Voilà, c'est ouf, hein.
Et puis il était aussi dans le Prince de Bel-Air, il faisait souvent l'agent de sécurité. Et okay. Avec une grosse moustache, l'acteur. Non, mais ça me fait de gens marrer.
Un Vulcain agent de sécurité, ça fonctionne. Il te fait une prise vulcaine et c'est bon.
Voilà. Ensuite, Scotty, pareil, il était dans une boucle temporelle à cause d'un téléporteur. Donc il n'a pas vieilli, littéralement. Dans l'épisode où il le retrouve la sphère de Dyson.
Tristesse, et puis, alors, cet épisode.
Le seul qui est vraiment vieux, c'est McCoy, c'est Bones,
oui,
c'est
oui.
Docteur McCoy, pardon. Et McCoy, effectivement, il fait un petit caméo au début du premier épisode, du deuxième épisode de Star Trek, notamment avec Data. Et c'est très rigolo parce que on se dit qu'à son âge, alors déjà il est docteur, je pense que qui mieux qu'un docteur peut se préserver des maladies et des accidents qu'un autre docteur. Et du coup, je crois qu'il fait une remarque sur le fait qu'il est tout en plastique et il est avec Data qui est tout en mécanique. Voilà. Et effectivement, il est vieux. Mais je crois qu'ils l'ont même vieilli plus que nécessaire.
Oui, ils l'ont vachement vieilli et ça se voit.
Ouais, déjà, il était vieux dans TOS. Hein, on va pas se mentir. Et d'ailleurs, il est dans le lore. Il est plus vieux que Kirk, je crois, d'une bonne vingtaine d'années. Parce que ça fait déjà plus de 10 ans qu'il exerce la médecine sur Terre quand il rencontre Kirk pour la première fois, il me semble. Bref. Il est très vieux, voilà, lui il est très vieux, effectivement, l'espérance de vie dans l'espace a beaucoup augmenté, les centenaires peuvent être légion quand ils ne sont pas détruits dans un vaisseau spatial, mais oui, l'espérance de vie a considérablement augmenté. C'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup de vieux dans Star Trek, j'avoue, donc quand on voit des vieux, c'est des trucs qui ont des millions d'années, quoi. Le père de, je pense au père de Sisko, qui est âgé mais qui gère toujours son restaurant, qui... Non, j'ai pas de souvenir de beaucoup de vieux à part des vieux mystiques.
Je sais plus. Par contre là, en parlant de vieux, alors il est pas, l'acteur n'est pas vieux du tout, mais il y a un superbe épisode. Je crois que c'est avec Anke Frankenstein, dont le papa dans l'épisode atteint les 60 ou 70 ans, je crois. Et d'après la culture de sa planète, il doit mourir. Et c'était un magnifique épisode. Bon, c'est pas vieux, hein, 60-70 ans, c'était par rapport à ça. On en parle un petit peu quand même dans Star Trek. Mais c'est vrai qu'il y a très peu d'acteurs âgés. Il y a quelques amiraux qui ont bien 70 ans tapés. Et j'ai oublié comment s'appelle le doyen actuel de Star Trek qui a 104 ans, si je dis pas de bêtises, là, qui a fêté son anniversaire en octobre ou novembre, je crois. Qui était déjà vieux dans TNG. Ça fait bizarre de se dire qu'il a 104 ans. C'est assez rigolo.
Bon. Voilà pour la réponse.
Pourquoi dans les films les dirigeants de la Fédération sont-ils pour certains des despotes ou qui agissent contre les valeurs de Starfleet et de la Fédération?
Alors, je n'ai pas à souvenir qu'il y ait des gros tyrans. Le seul tyran dont je me rappelle, c'est sur l'épisode L'Enfer sur Terre où effectivement Starfleet, n'oublions pas que Starfleet c'est l'armée, fait un coup de force pour prendre le contrôle sur la Fédération. Après, qu'il y ait des confrontations entre la Fédération et Starfleet, c'est normal. La Fédération, c'est des planètes unies, c'est un peu comme les États-Unis ou l'ONU aujourd'hui, quoi. La Fédération n'a pas les mêmes ambitions, on n'a pas la même politique que Starfleet. Starfleet, c'est un bras d'explorateur et ça reste un peu un bras armé, quoi. Donc ça peut-être des tendances à voir le mal partout ou sur certaines périodes à vouloir explorer outre mesure. Mais la Fédération en elle-même n'a pas les mêmes objectifs que Starfleet, quoi. Donc c'est normal qu'il y ait des confrontations. Après, je ne me rappelle pas de tyran, quoi.
Attends, mais est-ce que... Je suppute qu'il a voulu dire quand il parle des dirigeants de la Fédération, je pense qu'il parlait vraiment des dirigeants de Starfleet, non? Parce qu'on a pas mal d'amiraux qui trahissent Starfleet à plusieurs reprises.
Ouais, mais ils n'ont pas le pouvoir, quoi. Je veux dire, ils n'ont pas de pouvoir hormis de mettre en place des machinations politiques. Je pense par exemple au Maquis et au et justement à l'épisode L'Enfer sur Terre avec l'invasion du Dominion, où effectivement ils font des choses, mais à chaque fois c'est Starfleet, hein, qui fait les choses en douce, et c'est tout le problème, quoi. C'est que Starfleet doit servir la Fédération et pas se servir elle-même. Le virus du Dominion, c'est Starfleet, et en grande partie la section 31. Je pense à quoi d'autre là, le Maquis. Alors non, là tu vois, le Maquis, le problème du Maquis, ça c'est vraiment un problème de politicien. Et souvent, les officiers de Starfleet se sentent trahis par la Fédération. C'est-à-dire que c'est les politiciens qui ont décidé que c'était mieux de faire une zone neutre, et alors que les militaires n'étaient pas chauds, quoi. On peut voir l'illustration de ça, notamment avec l'amiral Nechayev.
Ah, j'adore ce.
Voilà,
ce
qui est souvent, qui applique pur et dur la volonté de la Fédération des Planètes Unies. Et elle se heurte un peu à la réaction à chaque fois, soit du capitaine Picard, je crois qu'on la voit peu dans DS9, mais elle se heurte à chaque fois à des officiers de la Fédération de Starfleet qui sont très pro-Starfleet, quoi.
Elle apparaît deux, trois fois dans Deep Space Nine, mais et ça c'est assez rigolo parce que au début Nechayev, tu apprends à la détester parce que tu as le point de vue de Picard. Voilà. Petit à petit, elle devient beaucoup plus nuancée et au final, à la fin de TNG, tu l'apprécies vraiment. Et du coup, quand elle arrive dans Deep Space Nine, moi je me souviens à chaque fois que je la vois arriver là, je suis tout content. Elle vient peut-être deux, trois fois et j'aime beaucoup ce personnage, très bien écrit. Ok. Allez, question de production, toujours de XP. Y a-t-il des auteurs et des autrices qui ont émergé grâce à Star Trek? Alors là, est-ce qu'il entend auteurs et autrices de romans ou des scénaristes? On parlait de
Fontana,
merci beaucoup, qui a su se faire un nom grâce à Star Trek. Après, des auteurs de romans, on a surtout des romans, des romanciers et romancières qui œuvrent que sur des franchises, c'est-à-dire qu'on voit des gens qui travaillent un peu sur Star Trek, un peu sur Star Wars, un peu sur la planète des singes, etc.
Après, il faut dire aussi que quand tu as une étiquette d'avoir bossé pour Star Trek, tu fais pas grand-chose d'autre. Je vais prendre pour exemple Jonathan Frakes. Tu connais sa grande carrière de réalisateur, Jonathan Frakes, donc à savoir Riker, quoi. Ben, il fait que des épisodes de séries télé, notamment il en a fait pas mal pour Discovery. Je crois qu'il va en faire qu'il en a fait quelques-uns pour Picard. Il en a fait une flopée pour Voyager. Et pour notamment Enterprise. Et puis après il a fait Agent of S.H.I.E.L.D. Alors, on a fait une flopée aussi pour Agent of S.H.I.E.L.D.
Je savais pas, tu vois.
Mais grosso merdo, c'est comme
Et pour The Orville.
Et The Orville, c'est comme, comment elle s'appelle, la dame qui joue Bellana Torres. C'est ça, Bellana Torres et Tom Paris. Vous les retrouvez souvent au crédit de la réalisation d'épisodes de Star Trek ou de scénar.
D'accord.
Les mecs qui font que ça, voilà.
Ben après bon, Nimoy, à part jouer dans Star Trek, écrire des livres sur son personnage, il a réalisé Trois hommes et un couffin, excellent film. Non, je déconne.
Non, ça, à l'époque c'était bien. Voilà, ouais, c'était drôle, ouais, c'était bien.
Regardez l'original plutôt.
Voilà. Mais tout ça pour dire, des auteurs qui écrivent des romans, non, enfin, je suis incapable de t'en citer alors que j'en ai un paquet. Et souvent, quand tu fais gaffe, tu as souvent William Shatner ou des comédiens qui écrivent eux-mêmes un roman sur quelque chose, quoi, de Star Trek. Mais j'ai pas. Pour répondre à la question, non, ça fait pas émerger des auteurs.
Il y a Ronald D. Moore, Dorothy Fontana, je cherche son prénom depuis tout à l'heure, désolé. Toute la flopée de scénaristes, mais en restant dans leur univers de scénaristes.
Ronald D. Moore, tu vois, je pensais à l'autre, là, comment il s'appelle, Ira.
Ouais, complètement fifou ce type.
Ouais, je sais qu'il a fait d'autres choses, mais je suis incapable de te le dire. Mais ouais, Ronald D. Moore, ouais, c'est le seul exemple là, qui sort tout de suite de la prod. Enfin, en termes de scénario et d'écriture, quoi. Voilà.
Ouais. Allez, question suivante. Y a-t-il beaucoup de points communs? Ah! Y a-t-il beaucoup de points communs entre Star Trek et la planète des singes? Et si oui, pourquoi? Mais oui.
À part la guerre nucléaire, je vois pas.
Oh, arrête. Il y a, d'un point de vue de production, on croise des milliers d'acteurs, pas des milliers, mais beaucoup d'acteurs qui ont joué soit dans les films, soit dans les séries, que ce soit dans les films ou dans les séries de Star Trek ou de La Planète des Singes. Marc Lenard. Notamment Marc Lenard. Bref, ils ont tous, ils se sont tous croisés. D'un point de vue de production, tous les auteurs, ça y est, j'ai oublié. John Chambers, le maquilleur des oreilles de Spock, c'est aussi celui qui a créé les maquillages de la planète des singes. D'ailleurs, vous avez une super capsule audio de Pourquoi Star Trek c'est génial, faite par le Dr Zaius. Autopromo. qui rappelle ça. Voilà, mais parce que c'était une époque, c'est une époque de production. Voilà, lorsque les séries Star Trek sont arrivées, les premiers films Planète des Singes sont arrivés. Et lorsque les séries Planète des Singes sont arrivées, la série, pardon, Planète des Singes est arrivée, les premiers films Star Trek sont arrivés. Donc, enfin voilà, tout cela se croise et s'entremêle. C'est normal, ouais, c'est pas étonnant. Tout comme je suis sûr, j'ai pas réfléchi à la question, mais je suis sûr qu'il y a des auteurs qui ont joué, qui ont travaillé sur Star Wars et Star Trek également. Kyle Reese qui revient avec une question sur Discord. Alors, combien connaît-on de types de technologies de téléportation et d'hyper exponentielle? Ah oui, d'accord. Je comprenais pas le sens de la question. Oh, mais autant qu'il y a
Moi,
d'espèces.
ouais, après, de ce que j'ai compris, il y a les mêmes bases. C'est-à-dire, parce que moi, ça m'a toujours surpris qu'un ingénieur terrien arrive à comprendre comment marche un vaisseau d'un peuple qu'ils ont repéré il y a 10 minutes. Notamment Trip. T'as le mec, il est à l'archéologie, il est à la préhistoire du moteur à distorsion, et à chaque fois qu'il va sur un vaisseau, il aide les autres à réparer le leur, quoi, tu vois. Donc je pense qu'il doit y avoir des bases communes quand même.
C'est le langage universel mathématique. Mon
Oui, et puis
pardon.
cette technologie, tu sais, ouais, c'est ce que je dis, quoi, c'est le langage. Bah, je suis pas sûr, c'est plutôt de l'ingénierie, parce qu'il est pas vu dessus de trip, hein, quand même. Hein. Enfin, c'est pas. C'est un MacGyver, mais avec ses mains, pas avec sa tête.
Oh, t'es dur.
Non mais
Question
attends, je suis dur.
suivante.
À chaque fois qu'il voit une femelle, il faut qu'il s'accouple. Et
Ah,
à chaque fois, on
ah bah
lui dit
oui.
c'est une mauvaise idée, quoi.
Ouais, de suite. Et, à tel point qu'il en devient papa.
Et enceinte, voilà.
Ouais. Comment le temps est-il mesuré dans Star Trek? Avez-vous déjà compris les dates stellaires que donnent les capitaines dans les journaux de bord?
Alors, j'avais vu une fois la question posée dans une convention à un des scénaristes de Star Trek, et il disait qu'eux-mêmes ne savaient pas. Et qu'en
Voilà.
gros, ils s'appliquaient à mettre des dates supérieures les unes aux autres, quoi. Mais que même, voilà, normalement, c'est par rapport au centre de la galaxie. La star date, elle est fixée par rapport au centre de la galaxie. Et comme pour nous avec le Soleil, la rotation de toute la galaxie, quoi. Mais eux-mêmes ne savaient pas comment ça marchait.
Mais c'est compliqué,
Voilà.
c'est à calculer, c'est un coefficient espace-temps. C'est-à-dire que ça, la date qu'on nous donne au début de chaque épisode dit à la fois le lieu et l'heure au moment où ça se passe. C'est super intéressant, mais c'est super compliqué pour nous autres. On n'a pas la technologie, on ne peut pas comprendre. Donc.
Ouais, mais surtout que ça n'a aucun sens. Non, mais enfin, allez, on va faire 2 minutes de science. Normalement, à la vitesse, voilà, il se déplace en distordant l'espace et le temps.
Ah ben ça vient à la
D'accord?
question suivante. Très très bien, vas-y, vas-y.
Voilà. Bah, en gros, il se déplace en distordant, en forçant la galaxie autour d'eux à se plier. Alors, et encore, leur distorsion ou le warp, ça a été expliqué comme ça, mais sur le fond, c'est pas ça ce qu'ils font, quoi. Bref. Néanmoins, il y a ce problème, tu sais, là, des jumeaux d'Einstein, où quand toi, si tu mettais deux jumeaux, un sur Terre et un dans un vaisseau spatial qui allait aussi vite que la lumière, le jumeau sur Terre vieillirait, et par exemple, pendant 20 ans, et le jumeau qui voyagerait à la vitesse de la lumière aurait pas pris une année, lui, tu vois. Bon,
Le temps est relatif.
or, il y a un problème, c'est qu'à chaque fois qu'ils se voient entre eux ou machin, ils se disent pas, putain, t'as pris 10 ans, toi. Non, bah non. Voilà. Il y a un autre truc aussi qui est assez frappadingue, c'est qu'ils arrivent à se parler, ils sont à l'autre bout de la galaxie, à part pour Voyager, mais des fois ils sont à des centaines d'années-lumière de la Terre, et ils arrivent à se parler comme nous sur Skype, quoi, tranquillou. Il y a un peu de latence, mais faut pas abuser non plus, quoi. Voilà. Donc, tout ça vient du subespace. Alors, ils mettent tout ça pêle-mêle dans le subespace, mais effectivement, Star Trek, ça se veut un peu de la hard faille. Mais là-dessus, sur les déplacements, bah, scénaristiquement, tu peux pas faire un truc comme ça. Tu peux pas faire Interstellar à chaque épisode parce
Voilà.
que tu pourrais pas te créer d'enjeux politiques, tu pourrais pas en créer d'enjeux sociaux. Genre, par exemple, le problème des Bajorans, bah, le temps qu'on y arrive, ils étaient déjà morts depuis 1000 ans, quoi, tu vois. Donc, tu peux pas créer des choses comme ça. Bon. Mais c'est ce que j'ai oublié comment on appelle ça en termes de. Quand tu es un spectateur, c'est une.
La suspension d'incrédulité ?
Voilà, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu arrêtes de réfléchir à ça, parce que si tu commences à réfléchir à ça, bah, l'histoire n'est plus possible, quoi.
Voilà. D'où la question suivante. Comment peut-il y avoir un calendrier unique dans la Fédération, malgré les distances, les révolutions différentes des planètes, alors que nous ne sommes pas tous sur le même fuseau horaire sur Terre. Les distances se mesurant en allée et lumière, laisse-moi parler, chaque voyage devrait être des voyages temporels avec des paradoxes, ne croyez-vous pas? Par exemple, être arrivé avant d'être parti, ou bien revenir des milliers d'années après être parti, comme dans la planète des singes, par exemple. On parle beaucoup de la planète des singes en ce moment.
Ouais, je crois qu'il y a un lobbyiste parmi nous qui y travaille beaucoup. Juste une chose, voilà, c'est là où j'allais te couper. Il y a juste quelque chose, par contre, qui a commencé à être mis en place depuis DS9, tout doucement. Mais c'est vrai que je l'ai plus vu dans Discovery. Tu sais, c'est le rythme circadien, bref, le rythme biologique. Et effectivement, plusieurs fois, il était précisé que, par exemple, l'Enterprise tourne sur du 24 heures, mais par exemple, une journée sur DS9 fait 26 heures.
Oui, c'est vrai, ils le disent à un moment.
Voilà, et du coup, effectivement, il y a peut-être une adaptation entre les stations et les vaisseaux, et je pense notamment aux espèces qui sont pas forcément... Bon, on en a pas trop vu, à part dans Discovery, mais aux espèces un peu comme dans The Orville, gélatineuses ou ces conneries comme ça, qui ont eux un cycle de vie différent et il faut que le reste du vaisseau s'adapte, quoi.
Mais c'est du pain béni pour moi, tu me donnes les liens entre les questions, bravo. Comment les différentes espèces, c'est toujours XP qui demande ça, comment les différentes espèces extraterrestres peuvent-elles se côtoyer dans les vaisseaux malgré leurs différentes morphologies, physiologies et cultures? D'autant que toutes les planètes ne peuvent pas toutes avoir la même atmosphère, alors comment se fait-il qu'ils respirent tous de l'oxygène?
Alors, on a eu plusieurs épisodes comme ça, dont certains très maladroits qui essayaient de parler de l'handicap et qui ont été très nuls là-dessus. Mais on a notamment le pote bleu là de Wesley Crusher, là le cadet aussi là qui respire une sorte de d'azote chelou. Donc il a un petit appareil de respiration. Après, on en a vu plein différents. Bah, ils ont
des hommes poissons à un moment.
Voilà, ils ont des prothèses, ils ont des outils qui leur permettent d'être tout à fait normal. On avait cette dame là avec la, tu sais, l'épisode sur DS9 avec cette chercheuse qui était sur une planète sans gravité et qui, bah, elle était obligée d'être tout le temps en fauteuil roulant quand elle était sur une gravité faite pour les terriens. Après,
surtout ça, avec Terraknor, c'est compliqué parce que je sais pas si t'as remarqué, mais il y a des, même un humain lambda qui a des problèmes pour se déplacer peut pas être sur Deep Space Nine parce que c'est des portiques en cercle avec une marche à chaque passage, et il y a des marches partout dans Deep Space Nine.
C'était un ancien truc pour miner des astéroïdes, hein. Par contre, le vrai problème que pose cette question, et après là on est sur des questions de production, effectivement la Fédération c'est pas censé être 80% d'humains et 20% d'extraterrestres, et Starfleet aussi. Ça devrait être, il ne devrait pas y avoir de minorité, de majorité. Or, tous les vaisseaux spatiaux sont conçus pour des humanoïdes, d'autant plus pour des humanoïdes humains. Voilà, c'est juste l'anthropocentrisme de Star Trek au grand jour, quoi.
Ouais,
voilà.
Mais ça aussi, mais bon, une fois de plus, c'est question de production. Tu peux pas, tu peux pas mettre.
Dans le dessin animé TOS, il y en avait plus, ouais.
Ouais, j'adore. Et j'ai encore regardé hier soir l'épisode Jihad avec toutes ces espèces différentes, notamment les hommes aigles. Là, je sais plus comment ça s'appelle.
Oui.
J'adore. On veut plus de Arex. Rien à voir. Alien Tux nous redemande sur Discord. Question sur la biologie et le temps. En peine de prison pour un même crime, est-elle adaptée à la race ou à l'espèce du condamné? Question que je me pose pour chaque univers de SF ou de fantasy. 20 ans de prison pour un humain, c'est pas la même chose que pour un Vulcain.
Alors, je crois que c'est dans... Non, Star Trek, il y a très peu de prison. Je veux dire, à chaque fois qu'on va dans une prison de la Fédération, c'est pour aller en chercher un mec et qu'il fasse pas sa peine. Donc je crois pas qu'il croit beaucoup à la prison dans Star Trek.
Tom Paris, c'est à toi qu'on s'adresse.
Ouais, il y a Tom Paris, il me semblait qu'il y a quelqu'un d'autre aussi. Bref, ça je pourrais pas, on pourrait pas répondre parce qu'il y a pas vraiment de cas là-dessus. Effectivement, on peut se poser la question déjà, est-ce que c'est un citoyen de la Fédération ? Si oui, effectivement, bah tout le monde a la même peine, que tu vives de 100 ans ou 20 ans, ça change pas grand-chose. En tout cas, j'ai pas l'impression que ça soit pris en compte. Et quand j'ai lu la question, je me suis posé la question Farscape, qui est une série qui commence avec des prisonniers sur un vaisseau prison. Il me semble que vu qu'ils ont des espérances de vie différentes, ils ont des peines un peu plus différentes par rapport à leurs crimes. Après, c'est rigolo parce que c'est quand même le peuple qui les a emprisonnés, là, ces prisonniers, c'est un peuple fasciste. Et ça m'a fait marrer de me dire que des fascistes prenaient en compte cette notion plus qu'une fédération utopiste. Quoi.
Et vu que c'était un camp de labeur, non, la prison dans Farscape, non ?
Non, c'est une prison, c'est pas un camp de labeur.
J'ai un mauvais souvenir, je me souviens plus. Parce que j'allais dire, c'est normal, au contraire, pour des fascistes, tu prends en compte l'espérance de vie de ta force de travail.
Il me semble que c'est un transport de prisonniers. Ouais, le vaisseau, c'est un transporteur de prisonniers, mais et qu'il y en avait un, le costaud, lui, vu qu'il était costaud, il était condamné à une peine de travaux forcés. Et la prêtresse, elle était condamnée à autre chose, je ne sais plus quoi, mais c'était adapté à leur morphologie, à leur espérance de vie. Ouais.
Très très bonne série, Farscape, on le dit à chaque fois, mais on va continuer de le dire. Il y a un livre, alors je ne l'ai pas lu, peut-être que tu l'as lu, mais je pense que tu en aurais parlé, Le droit selon Star Trek, qui est en français. Qui est accessible facilement, très facilement trouvable. Peut-être qu'il y a la réponse dedans, je ne l'ai pas lu, je suis désolé.
Eh ben, j'en ai 3 exemplaires qui m'ont été offerts par l'auteur, j'ai toujours pas lu et j'ai très honte.
Oh. Voilà. Les 3 par l'auteur, putain. On pourrait le faire gagner à un jeu concours, hein. Pardon.
Bah ouais, faut juste que je remette la main dessus, c'est encore peut-être dans certains cartons que j'ai pas déballé, mais ouais.
J'espère que ne nous écoute pas, auteur du
Non, mais je l'ai déjà dit, à chaque fois il me croise et je lui dis, mais j'ai toujours pas lu. Alors,
tiens, je t'en offre un quatrième.
Voilà, c'est quelqu'un qui. C'est un. Comment on appelle ça ? Un bâtonnier, je crois.
Un quoi ?
Un bâtonnier, un gars du barreau.
Ah !
Qui a écrit le livre. C'est un vrai docteur en droit.
Ah, c'est chiant, je me souviens plus. J'ai vu plein de vidéos, enfin plusieurs vidéos. On le retrouve sur des forums. Ah merde.
Après, il se base de toute façon sur ce qui a été, enfin, de ce que j'avais discuté avec lui. Il s'est basé pour faire son travail sur les, par exemple, les vidéos de cours martial ou les vidéos de droit style directive première ou des choses comme ça, quoi. Et effectivement, vu qu'il y a très peu de prisons dans Star Trek, je pense pas qu'il ait pu faire grand chose là-dessus non plus, quoi.
Fabrice Deferard, ça y est, Le droit selon Star Trek.
Oui.
On vous conseille la lecture, même si on ne l'a pas fait. On repart sur une question. Allez, question de goût. Star Trek pour les nuls sur YouTube, mais qui est donc cette personne ? Que pensez-vous de l'évolution de Nog dans la série Deep Space Nine ?
Eh ben, c'est peut-être la meilleure utilisation d'un extraterrestre dans une série de télé pour le moment, à part dans Alien Nation. Souvent, l'extraterrestre de service, comme je l'appelle, il est fait pour mettre nos incohérences en évidence. C'est-à-dire que c'est le personnage qui, en essayant de s'adapter à notre culture, met en exergue ce qui ne va pas dans la nôtre. Voilà, parce qu'il est innocent, parce qu'il a un recul par rapport à tout ça, et il sert à ça. Or, Nog, pour une fois, c'est un extraterrestre, comme d'ailleurs Quark, c'est des extraterrestres qui ne servent pas à faire ça. C'est des extraterrestres qui vivent leur vie, et qui font ce qu'ils ont à faire. Et du coup, c'est intéressant, Nog, parce que c'est un extraterrestre qui souffre. Pas de racisme, qui souffre pas de problèmes dus à son peuple, qui souffre d'un problème qui est commun au reste de la Fédération. Par exemple, il est blessé en guerre, donc il a un stress post-traumatique à un moment. On sait qu'il va pouvoir être capitaine un jour. On sait qu'il essaye de s'extraire justement de sa culture, alors que souvent dans Star Trek, c'est très américain et très anglo-saxon. On force les extraterrestres à garder leur culture. Lui, il veut s'en extraire parce qu'il dit bah, ma culture, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour moi. Peut-être pour d'autres Ferengi qui arrivent à vivre dedans, mais moi, j'y arriverai pas parce que je suis pas fait pour ça, en fait. Et du coup, bah, si je devais rester dans cette culture-là, Ferengi, je serais malheureux toute ma vie. Et c'est pour ça qu'il rejoint la Fédération. Et je trouve que l'évolution du personnage est intéressante aussi parce qu'on le suit enfant. C'est-à-dire que quand on commence, il a le même âge à peu près, hein, un an ou deux de différence que le fils de Cisco.
Jayco.
Et voilà. Et du coup, bah, on le voit grandir. Et on voit ce qu'aurait dû être, par exemple, Wesley Crusher.
Ouais.
C'est-à-dire, même si on ne le voyait pas tout le temps, on voit qu'il a évolué et ses problèmes, tu comprends pourquoi il a des problèmes. Il n'a pas Wesley Crusher, il a des problèmes de petit gamin capricieux, quoi. Voilà, je m'ennuie, je suis pas bien, je m'ennuie, tu comprends pas, la vie c'est dur, je vais aller planter des baobabs en Afrique.
Oh là,
voilà, c'est un peu Wesley Crusher.
Mais c'est alors la première Doc... fois qu'on écrivait un personnage comme ça.
Ouais, et puis bon, il avait fait Stand By Me avant, donc qu'est-ce que tu veux que tu pouvais faire avec ça, quoi. Mais bref.
D'ailleurs, voilà, tu mentionnais Jake. Jake aussi est un personnage très intéressant parce que également il a une évolution. Alors on le voit plus souvent que Nog. Son évolution est moins forte que Nog. Mais ouais, Deep Space Nine a écrit deux très bons enfants là.
Et puis il est intéressant sur le fait que c'est, alors de mémoire, c'est peut-être un des seuls humains qui veut pas intégrer Starfleet.
Ouais, mais ça c'est super intéressant aussi.
Voilà.
Alexander, le fils de Worf, non plus veut pas intégrer Starfleet.
Starfleet et il finit sur un vaisseau Klingon, quoi.
Ouais, mais en tant que négociant. Non.
Ambassadeur. Ambassadeur. Je sais pas quoi, ouais. Là. Ouais. Mais voilà, c'est intéressant ce côté. Et c'est là où on en discutait la dernière fois. DS9 a su se renouveler, se réinventer assez rapidement par rapport aux autres séries, quoi. Voilà.
Tout à fait, Thierry. Allez, la petite dernière question. Si je dis, attends, je les reparcours vite fait. Oui, c'est ça. C'est la dernière question de XP78. Savez-vous à quel point Star Trek a créé de motivations scientifiques et combien d'avancées des créations d'objets ont droit à l'inspiration de Star Trek? Quelques exemples nous suffiront.
Bon, soi-disant, il y a l'exemple des portes qui s'ouvrent automatiquement dans les supermarchés. Est-ce que c'est une légende urbaine ou pas? Mais effectivement. J'ai lu plusieurs articles comme ça, ou dans des documentaires, j'ai vu que des gens en parlaient et disaient qu'effectivement, ils avaient vu ça dans Star Trek et qu'ils avaient été dans leurs centres commerciaux pour leur dire hey, pourquoi les portes, elles s'ouvrent automatiquement. J'y crois moyen à ce que la technologie ait vraiment influencé, que Star Trek ait vraiment influencé la technologie. On a tous vu hein, cette photo où tu vois le truc de Cisco qui regarde dans une sorte de Google Glasses et après, tu as la photo genre Google Classique, les pads, les machins, les trucs. Star Trek a imaginé le futur. D'accord ? Je ne suis pas sûr qu'après, les ingénieurs soient tous inspirés de ce qu'ils ont vu dans Star Trek étant donné que c'était l'ordre naturel des choses. D'aller vers des PC, des machins. Par exemple, quand on regarde bien la série des années 60, ils n'ont pas de PC personnel. Hein. Ils ont un ordinateur central pour tout le vaisseau. Voilà, le PC personnel, ils ne l'ont pas imaginé. Quoi. Les portes, ils s'ouvrent automatiquement. Je pense que ça devait déjà exister aux États-Unis parce qu'il n'y a rien de mieux que de faciliter l'entrée des gens dans un magasin.
Alors, juste, je prends, ça tombe bien que tu reprennes cet exemple. Neil deGrasse Tyson, l'astrophysicien connu pour des millions de choses et notamment pour la série de documentaire Cosmos, expliquait dans une interview où il regardait Star Trek enfant et il disait il n'était pas du tout surpris par des vaisseaux spatiaux, par des concepts un peu foufou, mais par contre quand il voyait les portes s'ouvrir, il hurlait derrière sa télé, non ça c'est pas possible, c'est juste pas possible. Alors voilà, bon, qu'est-ce qui est de l'ordre de la com et du fun et de la réalité.
Mais je pense que voilà, il faut toujours prendre une œuvre dans son contexte. Voilà, les années 60, puis après les années 80, on l'a vu aussi avec les années 2000, peut-être moins avec les années 90, mais si, quoique avec les années 90. En gros, c'est des années de révolution à chaque fois. les années 60, 70, révolution des mœurs sexuelles, révolution de l'individu qui est plus dans une communauté mais qui est individu seul, qui crée sa communauté, c'est des choses assez différentes et c'est des valeurs que reflète Star Trek dans les années 70. Fin des années 80, 90, on est sur le goût du gadget technologique. Donc ça se voit bien dans Star Trek La Nouvelle Génération avec le holodeck, avec tout un tas de choses qu'on a pu voir, notamment, tu sais, l'outil qui rend dépendant. Ils ont une sorte de jeu virtuel, oui, holographique, qui les rend dépendants. Ça, c'est très années 90, ce genre de délire de mode. Voilà. Et on arrive effectivement dans les années 90, avec l'arrivée du personal computer, on arrive sur le fait que dans Star Trek, ils gèrent tous la technologie, sont tous très à l'aise avec la technologie, ils savent tous faire des trucs avec des PC, parce qu'on arrive dans les années 90 où, toi comme moi, on a grandi avec des ordinateurs. Moi, je me rappelle, en cours de l'après-midi, les mercredis après-midi, des 6-7 ans, une des activités après le ping-pong et le foot, c'était programmer la tortue sur Mac, quoi.
Oula, voilà. J'avais pas de Mac.
Voilà, c'était ça. Moi, je me rappelle avoir vu des cours de ça, de programmation sur Mac. Les années 90, en France, c'était l'émission sur France 3 où il y a des gens qui envoyaient leur premier design, leurs premières animations 3D faites par PC à une émission de jeux vidéo sur la 3. Bon, voilà. C'est des années comme ça d'expérience, de découverte et d'expérimentation qu'on peut voir dans TNG. Ça parle beaucoup d'expérimentation. Et après, les années 2000-2010, on est dans la technologie. Il n'y a plus de nouveautés. Si tu regardes bien, il n'y a plus de nouveautés. Il n'y a que des avancées,
oui,
sur ces 10 dernières années. On ne fait que des avancées. On n'avance rien de nouveau. Mais on améliore ce qui existe déjà. Quoi.
Et tant qu'on n'en a pas besoin, ce n'est pas grave.
Non, mais c'est un fait. Ce n'est pas un jugement, c'est vraiment un fait. Et tu regardes Voyager et DS9, il y a très peu d'épisodes sur des expériences. Il y a très peu d'expériences. Tu vois ce que je veux dire ?
Oui, tout à fait.
Il y a très peu de recherches, de découvertes et de machins. C'est, on revient à quelque chose qui est très millennials. On revient à l'anthropomorphisme, à la question philosophique de sa place dans l'univers, dans une économie, dans une société. Et un jugement par rapport à ça, quoi. Donc voilà, ça c'est pour l'influence qu'a pu avoir Star Trek sur les technologies ou la sociologie en général. C'est plutôt donc un reflet pour moi. Après, est-ce que ça a influencé des carrières ? Oui, il y a, je pense à cette afro-américaine astronaute, j'ai oublié le nom, qui l'a dit à plus d'une interview.
Je me souviens pas.
Ouais, que c'est Star Trek, c'est la première femme afro-américaine à faire un voyage dans l'espace, donc il a dit plusieurs fois que Star Trek l'avait influencé. Je pense notamment à Whoopi Goldberg, qui en regardant Guinan être autre chose qu'une servante ou une esclave, s'est dit voilà, une femme noire peut jouer un rôle normal, donc je peux être comédienne et faire autre chose que l'esclave ou la servante dans les films. Je pense notamment à ce prince arabe fan de Star Trek qui a fait des pieds et des mains pour intégrer le casting sur un ou deux épisodes et qui après effectivement a fait en sorte d'influencer les jeunes dans son pays à aller vers les sciences.
Neil deGrasse Tyson,
voilà, je pense à l'auteur de Community aussi qui dans Star Trek a été une révélation pour lui et ça se sent dans tout ce qu'il fait, quoi.
Dès qu'on voit des reportages sur la NASA ou des trucs comme ça, on a les mots Star Trek qui reviennent parce que la personne interviewée, voilà, a forcément
Et puis forcément. C'est très américain, hein. Attention, hein, c'est très américain.
Oui, c'est
ça.
Vrai ça.
C'est, ouais. Nous en France, quand tu demandes si on demandait à Thomas Pesquet, je crois que sur aucun des trucs il a fait des références à ça, hein. Sur la science-fiction, des machins comme ça, sur aucune interview que j'ai pu lire ou entendre de lui, il parle de la SF. Hein.
Mais en même temps, nos questions, est-ce que les journalistes qui l'interviewent, j'ai pas vu beaucoup d'interviews, est-ce que quelqu'un va lui dire comment ça vous est venu?
Si je le croise un jour, je lui demanderai. Après, ouais. Je sais que Florence Porcel, il me semble que Florence Porcel lui a posé la question, ou du moins les gens qui produisent String Theory ont pu le voir, et de leurs échanges, j'ai jamais entendu parler de science-fiction, alors que c'est des gens qui en bouffent de la science-fiction. Hein. Donc, non, mais je pense que c'est très américain et que nous, franco-français, on est toujours très, dédaigneux par rapport à l'impact de la science-fiction, par rapport comment ça peut influencer nos vies. Voilà, c'est toujours du dédain ou alors c'est considéré comme des sciences sociales, quoi. Donc, pas accessible au plus grand nombre. Alors qu'aux États-Unis, ils n'ont pas ce complexe-là. Voilà pour les questions.
Ok, mais merci beaucoup Cyril pour ces réponses à ces questions. Et merci.
Ça va, on a fait une heure. Une heure, ça va.
Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas, continuez d'envoyer des questions. Nous, ça nous fait plaisir, on aime ça. Et voilà. Cyril,
bah, aujourd'hui, je voulais vous parler un peu de la philosophie des vaisseaux. Donc, on va essayer de ne pas être long. Star Trek... je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent un peu binaire comme série. Tu as les gentils explorateurs face aux méchants belliqueux expansionnistes. Et notamment, si vous faites attention, Star Trek, c'est fait aussi pour être vu sans le son. Alors, pourquoi je vous dis ça? Si je vous dis les vaisseaux de la Fédération, vous me parlez tous de cette soucoupe volante avec les nacelles derrière. Voilà. Et vous pourriez me dire, bah, c'est bizarre. Voilà. Je ne vous parle pas de la conception du vaisseau. Pourquoi est-ce que Roddenberry a imaginé ça avec ses équipes à l'époque? Il y a certaines logiques, on pourrait en parler dans un autre podcast, mais la philosophie de ce vaisseau-là, déjà, l'idée de la soucoupe, c'est assez rigolo parce qu'on est dans les années Roosevelt, quand sort Star Trek, il y a eu déjà ce problème de la zone 51. Il y a eu pas mal de gens qui disent voir des soucoupes volantes, et là le mec il te sort une soucoupe volante dans l'espace avec ce qui ressemble à une fusée avec deux pots d'échappement. Et Star Trek c'est ça, c'est-à-dire que tous les vaisseaux de la Fédération sont ronds, sont des soucoupes, c'est fait pour parler aux gens en disant voilà on est dans l'espace, la soucoupe volante, tout ça. Et puis ils sont ronds parce que les explorateurs, c'est la Fédération des Planètes Unies, donc qu'est-ce qui est plus fédérateur qu'une table ronde? On a par exemple le roi Arthur. Tout ce qui est rond, c'est l'égalité. Tout ce qui est rond, c'est pas menaçant. C'est-à-dire un bouclier, c'est rond, c'est fait pour se protéger. Mais à part Captain America, tu mets pas des grands coups de tatane à coups de bouclier aux gens, quoi. Donc tout ce qui est rond dans Star Trek, en général, c'est des gens qui n'ont pas d'intention mauvaise. Ils ont même poussé le concept des fois un peu plus loin dans Star Trek avec ces vaisseaux vitaux qui sont carrément des sphères. Voilà, des sphères avec le petit réacteur derrière, quoi. Tu m'arrêtes quand tu veux, hein, si tu as des questions.
Pas du tout, Jean, j'écoute.
Tu es
moi, les vaisseaux, je dois avouer que j'ai mis très longtemps avant de me rendre compte que... Ben, en fait, c'est quand j'ai regardé le premier film de la série originale que j'ai compris à quel point les vaisseaux avaient de l'importance dans le cœur des fans de Star Trek. Au début, je voyais des vaisseaux spatiaux. Et puis, c'est quand j'ai vu un film qui dure 2 heures et sur lequel tu as 3 quarts d'heure de plan du même vaisseau, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe autour des vaisseaux. Et moi, ça m'est passé, mais complètement à côté. Donc, j'adore vous entendre les passionnés. Donc, vas-y, je t'écoute.
Et du coup, voilà. Donc, on est sur ça. Donc, dans Star Trek, la plupart des vaisseaux ont des formes arrondies, notamment ceux de la Fédération, ont des formes arrondies, des formes douces et des choses qui ne sont pas intrusif. Et c'est pas anodin. Alors, est-ce que ça a été fait exprès ou pas? Mais c'est pas anodin parce que, comme je vous disais, le cercle, c'est ce qu'il y a de plus fédérateur. On met les gens dans un cercle, on se réunit autour d'un cercle. Enfin, le cercle, c'est une figure géométrique qui est aussi la perfection, qui est aussi plein de choses. Voilà. Donc, c'est pas anodin. Or, vous allez me dire, bah, les vaisseaux des antagonistes, ils sont comment? Il y a deux types de vaisseaux des antagonistes. Il y a les vaisseaux dits phalliques, ce que moi j'appelle phalliques. C'est des vaisseaux qui sont souvent en triangle, donc qui ont une forme comme ça un peu pénétrante. Et c'est vraiment pas, je fais exprès d'utiliser ce mot un peu phallique, enfin carrément le mot phallique. C'est des vaisseaux qui sont agressifs, qui ont des lignes droites. Et tout de suite, quand on regarde par exemple les vaisseaux Klingons, ils ont des lignes droites, ils ont des lignes dangereuses. On sent que ils sont pas là pour explorer, ils sont pas là pour promouvoir l'égalité. Ils sont pas là pour promouvoir le fédéralisme. Ils sont là pour agresser. On va prendre les vaisseaux cardassiens, c'est pareil, c'est des flèches. Les vaisseaux romuliens, alors les vaisseaux romuliens, c'est un cas à part, on en parlera après, mais
ça,
ils ont aussi des lignes.
Cool, ouais. Très intéressant.
Ils ont des lignes agressives, et quand ils n'ont pas de lignes agressives, notamment sur les premiers vaisseaux qu'on a pu voir dans TOS, ils ont des dessins agressifs. Et cette idée de dessin agressif sur la coque, il y a un aigle qui est dessiné sur la coque du vaisseau romulien dans les premiers épisodes. Et puis, donc, l'idée de l'oiseau revient plusieurs fois, notamment dans les appellations des vaisseaux. Mais quand, par exemple, sur les vaisseaux de l'univers miroir dans Star Trek, les vaisseaux de la Fédération de l'univers miroir ont tous des dessins agressifs aussi. Ils ont des épées dessinées sur la coque, ils ont des choses qui sont là pour faire peur, pour inspirer la terreur aux gens qui regarderaient par un hublot, pour ceux qui ont des hublots sur leur vaisseau.
oui, on avait parlé de ça.
Voilà. Et ils ont des couleurs sombres, ils ont des couleurs agressives, quoi. Pareil, la couleur des vaisseaux, dans Star Trek, c'est blanc, gris, gris clair. Les vaisseaux des méchants, c'est vert foncé, c'est rouge, c'est très sombre pour se cacher, pour être agressif, ou quand c'est visuellement comme les vaisseaux des Kazon ou des Cardassiens, c'est de l'orange, c'est du feu, c'est des vaisseaux de guerre. Voilà. Ça, c'est intéressant dans Star Trek, parce que tout de suite, tu peux arrêter le son et comprendre qui est le gentil, qui est le méchant grâce à ça. Et ça, j'ai toujours trouvé ça assez formidable. Voilà. J'ai parlé effectivement des vaisseaux romuliens, qui sont plus des vaisseaux théâtre, des vaisseaux géants, par exemple, le Direct des Romuliens, là, le vaisseau qui est l'équivalent du Classe Galaxie, c'est carrément un oiseau géant.
Ouais.
Voilà, c'est un oiseau géant et un oiseau de proie géant qui est là pour t'agresser. Alors que les vaisseaux de guerre Klingon, c'est vraiment, on a l'impression de voir ces vieux navires de la Seconde Guerre mondiale, voilà, des frégates, des porte-avions, des choses comme ça. Notez que dans Star Trek, et ça, c'est intéressant, pendant longtemps, il n'y a pas eu de vaisseau individuel de guerre. Il n'y a pas eu de chasseur. Pendant très longtemps, c'était des vaisseaux navires, donc des équipages qui s'affrontaient. Et c'est assez nouveau qu'on ait introduit des vaisseaux, des petits vaisseaux, une place
des Vipers,
de guerre. Ouais, des Vipers. dans Discovery, là, on a ces petits vaisseaux d'attaque. On a des drones dans Beyond. Mais c'est assez nouveau parce qu'aujourd'hui, c'est dans notre quotidien. Voilà. Mais c'est vrai qu'au début de Star Trek, et ça m'a toujours étonné parce qu'en même temps, peu de temps après, il y a eu Star Wars et Battlestar Galactica, il y avait ces vaisseaux de chasse. Alors après, on est aussi sur une période dans les années 80, fin des 70, début 80, où tu as la glorification des aviateurs, qui revient un peu sur le devant. Mais dans Star Trek, tu n'as jamais eu ça. Ouais. Même les vaisseaux, les petits vaisseaux, ont des petits équipages, mais tu n'es jamais seul à la tête de ta machine. Et c'est vraiment ça l'idée des vaisseaux dans Star Trek, c'est des visions politiques qui s'affrontent. Donc, on revient sur le rond où tout le monde se vaut, même s'il y a un capitaine. La vie du capitaine n'a pas plus de valeur que la vie du Troufion. Alors que sur les vaisseaux Klingons, les vaisseaux de guerre, comme ça, qui ont des lignes droites, il y a des hiérarchies, il y a des gens qui doivent mourir parce que c'est leur taf de mourir. Voilà. Et c'est des décisions individuelles dans les vaisseaux des méchants qui font qu'on rentre en guerre. Encore une fois, la Fédération attaque jamais la première. On est encore sur cette idée du rond, du bouclier, de la défense. Mmh. On n'attaque pas, les autres nous attaquent, et là, on répond. Et puis, on arrive à un moment... Alors, voilà, là, j'ai fini entre ce qu'on va appeler les vaisseaux des gentils et grossièrement, le vaisseau des antagonistes, des méchants. Il y a aussi un truc qui est propre à Star Trek, que je n'ai pas retrouvé dans d'autres séries pour le moment. Qui sont, alors dans d'autres séries on appellerait ça des vaisseaux cathédrales, mais moi dans Star Trek j'appelle ça les vaisseaux agents du chaos. Je vais parler de Voyager 6, de la sonde cétacée, du vaisseau de Nero, donc le Narada, ou de la machine infernale, et récemment le Klingon, le vaisseau sarcophage Klingon.
Ouais.
Voilà, qui sont des vaisseaux géants, ou des vaisseaux où tu n'arrives pas à définir la forme, et qui sont généralement, voilà, ils sont ni gentils ni méchants, ils sont agents du chaos.
Ouais, on sait, mais c'est à tel point que bah, la machine infernale, Doomsday Machine, on sait même pas si c'est vraiment un vaisseau, on sait pas, c'est tellement étrange qu'on sait même plus ce que ça en est, quoi.
Voilà,
C'est
par
excellent, hein.
exemple, le vaisseau de Nero, là, personne n'arrive à vraiment définir les formes, et c'est pour ça qu'il arrive à attaquer, parce que personne ne comprend ce que c'est non plus. Il y a des
C'est un
épines
vaisseau de
partout,
ménage, hein,
ça.
pourtant ça se voit,
Ben oui et non, par exemple, c'est aussi un vaisseau Borg, le vaisseau de le
Oui,
Narada.
tu nous avais expliqué ça,
Voilà.
ouais, c'est.
Et la sonde cétacée, donc on a su maintenant la sonde cétacée. Alors vous allez me dire, bah, c'est une sorte de cylindre. Qui ressemble un peu à la machine infernale, tu vois. Une sorte de cylindre
C'est vrai.
et il nique tout. On n'arrive pas à définir ce que c'est. Voyager 6, ça y est, on a eu le design final de Voyager 6 il n'y a pas longtemps parce que Eagle et Moss voulaient vendre des jouets. Mais voilà, pareil, c'est un truc, c'est un tube gigantesque. Voilà. Dans Star Trek, il y a peu de vaisseaux cathédrales. Je sais qu'il y en a un dans Enterprise et il y en a un dans Voyager. C'est des vaisseaux genre de la taille de planètes ou de systèmes solaires. Il y en a un peu plus dans First Cape, des vaisseaux cathédrales comme ça géants.
Il y en a un dans Yorville aussi.
Diorville aussi, ouais. Et à partir de là, voilà. Mais bon, ces vaisseaux agents du chaos sont rares, du coup. En général, bah, c'est autour d'un film ou d'épisodes qui sont marquants. Voilà. Ensuite, on a le cas des Borg. Et les Borg. Ben encore une fois, on est dans la logique Star Trek. Vous allez me dire, ouais, les Borg, c'est des formes géométriques simples. Il y en a une ou deux un peu chelou, mais ça reste de la géométrie, ça reste quelque chose de banal, de basique. Et les Borg, c'est là où c'est intéressant dans Star Trek quand tu t'interroges sur la philosophie des vaisseaux. Le Borg, c'est Guinan qui définit mieux le Borg. Le Borg est ni mauvais ni bon. C'est comme une tempête. Quand ça passe, tu peux pas en vouloir à une tempête d'être passé. C'est la nature du Borg de faire ce qu'il fait et d'être ce qu'il est. Il n'est pas motivé par une morale. Il est ce qu'il est et il fait ce qu'il fait. Et du coup, c'est quelque chose de très paradoxalement naturel. La tempête, elle vient, elle fait ce qu'elle a à faire, elle se barre. Le lion dans la nature, il bute l'antilope, il fait ce qu'il a à faire et il se barre. Parce qu'il n'est pas méchant, il n'est pas gentil, il fait ce qu'il a à faire. Donc, c'est normal qu'on retrouve des formes géométriques de base. C'est-à-dire une sphère, un carré.
Ah.
Et voilà, c'est-à-dire que la géométrie, elle est ni bonne ni mauvaise parce qu'elle est là, point. Et c'est pour ça que tu retrouves ça dans Star Trek. Et en général, bah, le cube, même s'il est vaincu, cause beaucoup de dégâts parce que les gars essayent de trouver une motivation là où il n'y en a pas, essayent de trouver une faiblesse là où il n'y en a pas, alors qu'il faudrait agir là, par exemple, comme un agent du chaos. Les seuls vaisseaux qui agissent différemment quand ils sont Borg, c'est les vaisseaux bizarres. Notamment sur le. Et en général, tu t'aperçois que ce vaisseau bizarre, il n'est pas géré par des Borg normaux. Par exemple, l'arc avec le frère de Data, Lore. Quand il contamine des Borg et que Crusher affronte seul une sorte de vaisseau bizarre Borg, ben voilà le vaisseau bizarre Borg. Parce que il y a eu une idéologie derrière ça, et du coup, l'idéologie se traduit par une forme plus complexe. Voilà. Alors, dans Star Trek, cette idéologie binaire, pardon, elle a un temps. C'est-à-dire qu'avec l'arrivée des Borg, avec la défaite de Worf 359, pour les scénaristes et dans le lore de Star Trek, on ne pouvait plus vivre pareil. C'est-à-dire qu'après une telle défaite, il faut repenser la mission de Starfleet. Et ça se voit avec les nouveaux designs de vaisseaux qui sont un peu plus pointus. On va parler du Défiant, par exemple, qui est donc lui un vaisseau de guerre,
Ouais. Bien que,
concrètement.
bien que. Bah, il est un peu plus pointu, mais il est quand même pas mal
Il
arrondi.
reste arrondi parce qu'on est dans Starfleet. Voyager aussi est un peu plus pointu, mais très arrondi parce que
C'est
c'est un
vrai,
vaisseau
c'est vrai.
d'exploration. Je pense au vaisseau jumeau qui est perdu dans le quadrant Delta avec Voyager. Le vaisseau, comment il s'appelle?
Je me souviens pas.
Bon,
J'ai
en tout
regardé
cas,
qu'une
ce
seule fois
vaisseau, lui, est
Voyager.
totalement pointu. C'est ça qui est rigolo, c'est que ce vaisseau est totalement pointu et ça représente bien le, la, pas la déviance, mais la problématique que se pose la Fédération sur est-ce que maintenant il faut penser à survivre ou continuer à explorer. Et on retrouve un compromis dans le Sovereign. Le classe Sovereign qui n'est plus un vaisseau où il y a de la famille, où il y a des membres d'équipage à bord qui ne sont pas militaires, et qui est un vaisseau amiral de guerre. Le Sovereign, même si sa première mission est l'exploration, c'est un cuirassé lourd. Alors, dans le jeu Star Trek Online, il est classé comme ça, hein, un cruiserweight, cuirassé, voilà, cruiserweight, j'ai oublié le terme, c'est cruiserweight, donc un lourd, un vaisseau lourd de guerre, pour répondre à la construction de vaisseaux de guerre lourds. Et notamment, la problématique s'est posée dans DS9, quand tu vois, il y a la bataille avec le Dominion, mais les nouvelles classes de vaisseaux Klingons, qui sont lourds aussi, et qui sont faits pour faire de gros dégâts assez rapidement. C'est pas les D7, j'ai oublié, là, il a le nom d'un Klingon. Voilà. Donc, cette logique, elle change. On a aussi les classes Bellerophonte qui commencent à faire leur apparition à la fin de DS9. Donc, c'est un mix, en fait, entre le Voyager et le classe Galaxy. Donc, des vaisseaux beaucoup plus profilés pour être... Bon, tu me diras, c'est con, ça, mais pour être plus rapide et plus offensive.
Oui, pour voilà. Donner une image de rapidité et d'offensive.
Voilà, et surtout d'agressivité, quoi. Donc, on en arrive à ça tout doucement dans Star Trek et on l'a bien vu dans les nouveaux épisodes, par exemple dans le Star Trek, c'était quoi, Darkness, avec l'USS Vengeance, ouais. Un vaisseau gigantesque aux traits durs, même s'il y avait un cercle, il reste que c'était des traits durs, c'était un cercle un peu brisé avec des lignes droites. Mmh. Et puis on a vu aussi ça dans Discovery, avec le Discovery, donc qui était un design original, une reprise. D'accord, mais qui reste un vaisseau
très anguleux, oui.
Ouais, très anguleux de recherche militaire. Voilà, et c'est assez marrant de voir ça. Après, de l'autre côté, on a des vaisseaux. Enfin, on va pas rentrer dans le design des autres vaisseaux au cas par cas, mais voilà, l'idée c'est ça dans Star Trek. C'est-à-dire quand t'es un gentil, t'as un vaisseau en forme de soucoupe volante, et quand t'es un méchant, t'as un vaisseau en forme de rectangle.
Voilà. Ou de triangle.
Ouais. Ou de triangle. Pour et là, bon, c'est toujours, on revient sur toujours ces mêmes trucs, un peu de psychanalyse de bazar, quoi. Mais voilà, on a des choses qui sont plus maternelles du côté de la Fédération, qui sont plus générateurs de vie, et des choses qui sont plus intrusifs, plus masculins du côté des antagonistes. Voilà, c'est tout pour ma dissertation.
Et alors, j'ai une petite question. Est-ce que Dis-moi. Tu te souviens de deux designs de vaisseaux? Un, c'est dans la série Enterprise, les pollueurs là, ceux qui balancent des déchets toxiques.
C'est dans Voyager.
C'est dans Voyager, c'est pas dans Enterprise.
T'as les mecs là, les malons.
Ah oui, non, c'est dans Voyager. Oui, oui, c'est
dans Voyager,
vrai, c'est
vrai. Les malons.
Et leurs vaisseaux sont tout ronds, plein de rondeurs, et ils font des proutes.
Et ils font des proutes, mais ils ressemblent beaucoup aux, tu sais, aux. Je sais pas si ça va parler, mais vous avez déjà vu la vallée de Fezzin à Lyon, Rhône Poulenc? Non, ça vous parle pas? On a en fait sur une dizaine de kilomètres que des entreprises de pétrole à Fezzin, c'est à côté de Lyon, et c'est en allant vers Vienne. Donc voilà. Et d'accord. Quand tu passes déjà sur ce tronçon de même pas 10 kilomètres, ça flingue, tu sens que c'est de la pétrochimie, et c'est assez rigolo quand ils passent la nuit. T'as l'impression d'être dans Star Trek, notamment les scènes de Star Trek dans le film de 2009 où ils construisent l'Enterprise.
Ah ouais, d'accord.
Parce que tu passes donc par l'autoroute passe au milieu un peu de la cité pétrochimique, et tu as plein de trucs au-dessus de l'autoroute, de sortes de pipeline et de plein de choses que tu n'arrives pas à définir. Et quand tu passes la nuit, pour des raisons de sécurité, tout ça est allumé, il y a des lumières partout, quoi. Et à chaque fois, donc tout ça pour te dire que arrivé à un moment, t'as toutes ces sphères d'essence stockées, et ça ressemble beaucoup au vaisseau Malon.
D'accord.
Voilà. Je pense que ça vient de là parce qu'ils ont aussi des grosses entreprises de pétrochimie aux États-Unis, quoi.
Ouais. Ouais,
Et voilà.
d'accord, c'est plus un
Je
design
pense.
logique imagé.
Ouais, tiens, je suis en train de penser à un vaisseau qu'on voit notamment dans Voyager, tu m'y as fait penser, un vaisseau Enix, le Prométhéeus, qui se divise en trois pour avoir un vecteur, pour être. Bah, c'est un de mes vaisseaux préférés. Il se divise en trois, et tu vois, c'est bien la logique de Starfleet maintenant. Lui, c'est carrément une flèche, hein, le Prométhéeus, et il peut se diviser en trois petites flèches en mode attaque. Tu vois, tu sens qu'il y a eu dans Star Trek une idée. Et je ne sais pas si tu te rappelles encore dans Voyager, et là je pense qu'on voit la logique du truc. Dans Voyager, tu as deux fois l'occasion de voir des vaisseaux du futur de la Fédération. Un, quand tu as l'extraterrestre, tu as un extraterrestre qui est capable de parler toutes les langues et d'extrapoler toutes les civilisations, et qui veut se venger du Voyager pour avoir notamment pactisé avec les Borg, ce qui a détruit sa planète. Donc il leur fait un vaisseau. Et le vaisseau, pareil, c'est une sorte de flèche en 3D, avec des toutes petites nacelles sur les côtés. Voilà, il leur fait un vaisseau de. Il extrapole ce que sera la Fédération. Et quand il voit le général Braxton, tu sais, le mec qui vient du 32e siècle, le vaisseau du général Braxton, c'est pareil, c'est une sorte de trident.
D'accord, je me souviens plus très
Voilà.
bien même. Mais
Et.
même l'Enterprise J était très très agressif.
Et très agressif, ouais. Avec une grosse nacelle, une grosse soucoupe en triangle, enfin, un peu ronde, mais ovale, on va dire, et de toutes petites nacelles. Ouais.
C'est fou parce que, en fait, quelque part, le futur, donc notre futur Star Trek, c'est un univers utopique, mais le futur de Star Trek est complètement
Dystopique, c'est la
ouais,
guerre.
dystopique, c'est affreux. Donc, en
Mais
fait,
après,
les
tu
Ronald
sais, on a.
Dimour et autres Braddon Braga avaient une vision assez pessimiste de...
Et on a souvent fait la comparaison entre Andromeda en disant que Andromeda, c'est ce que peut devenir la Fédération si la Fédération existe 10 000 ans, quoi. C'est-à-dire une république. Or, les vaisseaux dans Andromeda sont des vaisseaux de maintien de l'ordre.
D'accord, j'ai pas
Donc ça
regardé
veut.
Andromeda, j'ai
Ah,
juste le générique de début qui avait l'air super cool, c'est tout.
en gros, dans Andromeda, on t'explique qu'il y a une république galactique qui existe depuis 10 000 ans. Or, cette république galactique, notamment à cause de son créateur, ressemble beaucoup à la Fédération. Et les vaisseaux d'Andromeda sont tous les mêmes, il n'y en a aucun de différent. Ils sont tous sur le même modèle. Et c'est des vaisseaux donc en triangle, pareil, mais de maintien de l'ordre. C'est-à-dire que c'est des gardiens de la paix, quoi. Le héros, c'est un capitaine gardien de la paix.
D'accord.
Voilà. Et c'est là où tu te dis qu'effectivement, quand tu vois ces vaisseaux un peu triangulaires, tu dis que la Fédération, bon, dans 10 000 ans, si elle a toute la galaxie à gérer, ça sera plus une fédération du maintien de l'ordre. Et effectivement, pour répondre à des empires comme les Borg ou le Dominion, s'il faut répondre, pour leur faire voir que, ou les Toliens, ou dans Star Trek Online, comment on appelle ça, là, les. Ah, Cisco les a combattus dans le lore, on dit plus d'une fois. Bon, je donnerai le nom, mais en gros, il y a une espèce de genre de rhinocéros balèze. Voilà, dans Star Trek Online, tu as quatre grandes puissances. Les Borg, le Dominion, les Vought, avec leur vaisseau cathédral, là, et les Tsinkadi, là. Voilà, les Tsinkadi ou les Tsinkadi, qui ont pareil un espace, et les Toliens, voilà.
Les
Et
Toliens ont un design, le design même des Toliens est hyper agressif.
super agressif, quoi, voilà. Et clairement, c'est une force de maintien de l'ordre, un peu comme l'ONU, et pareil, une force de dissuasion, quoi.
Ok.
Voilà.
Je suis juste à nouveau une petite remarque. Je suis en train de parcourir les notes là, de l'émission. Et tu marques à un moment, on aurait pu penser que l'attaque des Xindi aurait préparé la Fédération à réagir, à créer des vaisseaux à
De
design
guerre.
plus agressif de suite. Et tu vois, je me posais la question parce que il y a eu l'affrontement, enfin la guerre contre les Xindi, celle contre les Romuliens, celle contre les Klingons. On pourrait se dire en effet que tout ça aurait dû déjà influencer, mais c'était des guerres relativement classique, bien qu'à échelle galactique. Mais c'est les affrontements avec les Borg qui ont changé vraiment la donne, parce que, comme tu disais, c'était un affrontement qui n'était pas du tout classique, qui...
Qui a détruit l'adversaire un grand n'avait nombre pas de vaisseaux une... d'un coup, quoi.
Oui, voilà. L'adversaire voilà, n'avait pas une vision normale de... Enfin, normale.
Et pour les Xindi, maintenant que j'y pense, là, je me dis aussi que, autant justement Wolf 359, il y a plein de gens de rescapés qui ont dû faire pencher l'opinion politique, c'est-à-dire l'opinion publique, en disant « on ne peut plus accepter de subir des pertes comme ça, c'est plus possible ». C'est plus possible. Or, dans Enterprise, il y a cette réflexion des terriens où on sent une montée de la xénophobie sur Terre en disant « mais si vous n'aviez pas joué les explorateurs, on ne se ferait pas attaquer par n'importe quel connard qui viendrait. » Et l'épisode où justement, comment il s'appelle, Archer, et avec le capitaine, le futur capitaine du Columbia, donc Archer est dédaigneux, il se dit dans ton vaisseau, mets des armes et des torpilles, sois prudente quand tu t'approches, à lui faire remarquer qu'il n'y a que lui qui a eu cette mauvaise expérience avec les autres peuples. Et que ça ne veut pas dire qu'elle va avoir des mauvaises expériences.
Ouais.
Avec les autres peuples. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, la guerre froide avec les Romuliens, même si ça a fait des morts, ça a fait des morts sur une guerre classique. Donc à long terme, pareil, avec les Klingons, c'est sur une très courte période, mais ça reste une période longue. Là où Worf 359, c'est juste une journée. C'est-à-dire qu'en une journée, ils ont eu autant de pertes et de morts que sur une guerre classique d'un an ou deux, ou sur une guerre de plusieurs mois, quoi.
Ouais.
Et pareil, avec les Xindi, c'est 2 millions de morts, mais une seule fois. Et sur un malentendu sur le fond, quoi.
Mais, et puis, bon... Alors, non, c'est quand même pire, les Borg, parce que c'était un combat rangé. Tandis que les Xindi, c'est une attaque. C'est une attaque voilà. Terroriste. Enfin, terroriste.
C'est une attaque.
C'est une attaque, quoi, qui a été violente, frappée, et qu'on n'a pas pu voir arriver. Les pertes sont, d'ailleurs, civiles. Tandis que dans Worf machin, c'est pas civil.
C'est pas trop civil, ouais. Donc, c'est aussi une politique, je pense que tu sais, dans la guerre des Klingons, on nous sort là dans Discovery, t'as notamment la réflexion que Pike était pas sur le front de la guerre. Pike continuait à être en mission d'exploration, quoi.
Il est trop parfait, en fait, il faut le garder.
Ouais, mais je pense que ça doit jouer, c'est-à-dire que ces mecs arrivent à un moment, Pike devient amiral, donc lui qui a pas connu la guerre, il voit pas l'intérêt de faire des vaisseaux de guerre, quoi. Et donc, s'il y en a une dizaine comme lui à la fin qui ont survécu, là, c'était toujours les courageux qui meurent en premier, quoi. Donc les planqués, ils survivent et ils deviennent amiraux, quoi. Ils se disent, bon, y a pas besoin d'armer les gens, faut mettre des moteurs plus puissants, c'est tout.
Ouais, non, t'es très gentil quand même, là. Tu trouves de bonnes raisons, de bonnes justifications, ok.
Moi, je suis arrangeant avec celui qui tient le phaser, toujours.
Ouais. Ok. C'est le moment d'insérer une blague bizarre. Ok.
Ah, est-ce alors, que c'est tu un juif en arabe et...
Non, ah bah, bravo, de suite. Ah. Qu'est-ce que d'autre à nous dire sur les vaisseaux dans Star Trek?
Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, clairement, j'ai synthétisé ce que j'ai déjà pu écrire. Là, je voulais synthétiser au maximum. Mais je pense qu'il faut... Vous verrez plus les choses comme ça. Après, hein, pour info, cette forme de nacelle loin du lieu d'habitation, c'était voulu par Roddenberry parce qu'il disait s'il y a un réacteur nucléaire à côté des gens, les gens vont mourir, ce qui est très vrai. Et après, c'est devenu iconique. C'est-à-dire que, et je pense que c'est pour ça qu'à l'époque, ils n'ont pas sorti le vaisseau là qu'on a vu dans Discovery. Parce que le vaisseau Enterprise, la forme du vaisseau était devenue iconique et que le changer était une erreur marketing, quoi. Ouais. Chose assez intéressante aussi, quand tu regardes l'évolution des vaisseaux Enterprise, quand tu les mets de profil, tu t'aperçois que les nacelles sont de plus en plus bas,
de par plus rapport en plus éloignées, oui.
Ouais, bas, ouais, par rapport à la soucoupe. Donc dans Enterprise, ils sont au-dessus de la soucoupe. Dans Star Trek TOS, ils sont à égalité par rapport à la soucoupe. Dans TNG, ils sont en dessous de la soucoupe. Et dans le E, ils sont tellement éloignés que ça fait une ligne, en fait.
Et il faut des télétransporteurs pour pouvoir se. Enfin,
Ouais.
ah non, c'est. Oui, non, c'est dans le J. Enfin, non, mais même sans parler d'Enterprise, le Voyager a les soucoupes. Merde, les
Hyper
choses
basse, ouais.
très très éloignées, ouais. C'est
Hyper basse,
assez
par contre,
intéressant.
quand il passe en vitesse de distorsion, j'ai la maquette à la maison, c'est rigolo. Et effectivement, dans la série, tu le vois peu de fois, elle se monte, les nacelles.
Oui, elles bougent.
Elle bouge.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Façon vaisseau.
Transformers.
Non, non, j'allais
Je
parler
suis
du
désolé,
vaisseau
Voyager,
Klingon.
il a un bouclier, quoi, mode
Ouais.
Transformers à la fin.
Ouais. Bref. Ok. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Cyril, pour ce
Mais de
partage.
rien, voilà.
C'était très, très bon.
Bon, merci, c'est ce qu'elle a dit hier soir.
On se retrouve le mois prochain pour parler d'un nouveau sujet qui n'est pas encore défini, courant
Défini, voilà.
janvier.
Mais
Voilà.
proposez-nous des sujets, hein.
Ah ouais, n'hésitez pas.
N'hésitez pas, c'est peut-être mieux que. Ça nous fait faire des recherches, du moins. C'est ça qui est intéressant,
Ça,
c'est quand on peut faire des recherches.
on va pas se mentir, ça te fait refaire des recherches.
Oui, c'est vrai.
Je me
Je suis
contente de
un rat de
réagir.
bibliothèque.
Ouais. N'hésitez pas également à poser vos questions, que ce soit dans les commentaires de ces émissions, sur les réseaux sociaux, sur les Discord, les forums, etc., etc. Vous savez qu'on est là. Nous, ça nous éclate de lire tout cela. Merci
Voilà.
Cyril. Pour rappel, on te retrouve sur Twitter. C'est le @CMCalejon.
Calejon.
Moi, je suis Rémi, @Rémi2D, le chiffre de la lettre D. C'est long à dire. Il faudrait que je change mon hâte,
Alors, il y
mais.
a une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube qui raconte l'histoire de la Terre avant le premier contact. Parce
Oui.
que l'histoire de la Terre est différente dans Star Trek, parce que Star Trek a commencé dans les années 69 et qu'effectivement, ils n'imaginaient pas le futur pareil que nous. Et nous, on est en 2019 et on sait ce qui s'est passé, et ça s'est pas passé comme eux, ils l'ont dit.
Ouais,
Voilà.
oui, c'est vrai. Nous, on a la vérité, on détient la vérité seule et
Nous,
absolue.
on est les témoins de Jéhovah de Star Trek. Voilà.
Ah, bravo. Allez, c'est l'heure de terminer cette émission. Est-ce qu'on instaure la blague de l'émission? Ou est-ce
Vas-y,
qu'on
fais-moi
l'instaure pas?
plaisir.
Parce que, en
Non,
fait,
mais.
tu vois, j'ai oublié de t'en parler, mais j'avais une proposition à te faire. J'ai un dossier blague, d'accord, avec quelques blagues d'avance. Mais j'ai aussi un dossier citation. Et je me disais, ça pourrait être sympa. On fait la blague de l'émission et puis la citation de l'émission.
Eh ben vas-y,
Allez.
pour info, cette semaine, j'ai réussi à classer une citation de Star Trek dans un projet marketing pour le Portugal. J'étais content.
Oh, bravo.
C'était la phrase de Spock, une infinité de diversité pour une infinité de possibilités.
Ah, Lydic. Magnifique, bravo.
Voilà.
Ça, c'est trop cool quand on arrive à en caler comme ça.
Ah mais moi c'est mon jeu, je classe des trucs geeks partout. Et ça me fait marrer. Ça me fait marrer. Et surtout que je travaille pour une compagnie actuellement qui a été fondée à San Francisco.
Oh.
Et le gars, quand il m'a dit le nom de la compagnie, j'ai cru que c'était une blague. Ça s'appelle Captain.
Oh là là.
Voilà, ça m'a fait rire.
C'est super cool. Allez, la blague de l'émission. Dis-moi, Cyril, que dit un Rasta qui n'a plus de quoi fumer?
Ah, tu m'avais dit en plus.
Mais
Parce
c'est quoi
qu'il
cette
essaye ses
musique de
blagues.
merde?
Voilà.
C'est quoi cette musique de
C'est pas
merde?
mal. C'est pas mal.
Allez, et pour terminer, la petite citation. Est-ce que ça te dérange si c'est pas une citation de Star Trek? C'est juste
Pas du
que
tout.
j'ai une citation de Stephen King à faire et je sais jamais où la caler et je la trouve magnifique. Donc Stephen King nous dit dans Anatomie de l'horreur, pour les yeux d'un enfant, le vert d'une pelouse est de la couleur d'un émeraude. Le bleu du ciel hivernal est aussi violent qu'un pic à glace. Le blanc d'une neige fraîchement tombée est une décharge d'énergie onirique. Et le noir est plus noir. Beaucoup plus noir. J'adore. Magnifique citation. Bonne journée à toutes et à tous. À très bientôt. Au revoir.
Ah, bye bye.